Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes.
Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario.
Bonjour.
On en parlait il y a quelques instants avec notre collègue Stéphanie. C'est une nouvelle qui a fait le tour du web, là, véritablement. Là, le cas qui est arrivé de violence dans le métro de Montréal du père d'Alexandre Champagne, le créateur de contenu, humoriste, photographe, qui en a profité, là, et profité de sa notoriété, on s'entend, pour faire connaître là, cette histoire-là sordide, somme toute, là, qui est arrivée.
Je dirais qu'Alexandre a comme deux messages. Là. Un, la sécurité dans le métro. Deux, l'indifférence des gens là, face à l'inacceptable qui leur arrive sous le nez. Là.
C'est fou, hein, parce que c'est quelque chose qu'on a dénoncé aussi dans les écoles. Toutes les vidéos qui parviennent, par exemple à TVA Nouvelles, de jeunes qui se battent dans le cours d'école, personne n'intervient, tout le monde est là avec son téléphone cellulaire. Oh! Prennent une petite vidéo, sont en train de filmer ça, mais ne font rien. Puis là, encore une fois, là, de selon ce qu'il explique, son père de 67 ans là, se fait attaquer par deux hommes qui le tabassent, lui brisent les lunettes, il saigne la face. Il n'y a personne qui bouge. Il est assis sur le quai, il pisse le sang, personne ne propose de l'aide. Appelle lui-même le 911 pour que finalement quelqu'un vienne lui vienne en aide à ce moment-là. Là. Mais on se comprend que il n'y a personne à qui pointer du doigt directement. On ne sait pas qui étaient les gens qui étaient sur cette rame de métro-là à ce moment-là. Mais mon Dieu, à quel moment tu es censé ne pas intervenir quand tu vois quelqu'un comme ça qui est à terre dans son sang? C'est véritablement ahurissant. Donc, un message
double. C'est comme si à Montréal, les gens ont pris pour acquis qu'il y a tellement de... Tu vas te mettre dans le trouble. Il y a tellement de criminalité. T'es mieux de... Tu t'en mêles pas.
Ouais, tu prends ton trou.
Toi, si t'arrives à rien, tu gardes ça de même. Si t'arrives quelque chose à quelqu'un d'autre, tu restes en retrait.
Ouais, c'est vraiment une situation qui n'a pas tardé à faire réagir non plus en Mario. Là, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui ont dénoncé à peu près la même affaire.
Il y a beaucoup de gens qui parlent des problèmes de sécurité dans le métro aussi.
Oui, parce que c'est pas le premier incident où on a des gens qui sont soit en crise, soit dans un épisode de toxicomanie intense, voire les deux, qui se promènent par exemple dans un wagon de métro puis qui crient après du monde, puis qui en insultent, puis qui ont un comportement agressif. Là. D'ailleurs, plus tard dans l'épisode, on va recevoir quelqu'un qui a lui-même été victime dans les derniers mois d'une agression là, dans le métro, là, qui s'est mangé un coup de poing plein visage, samedi, une journée, là, plein jour, là, pas le soir, tard, plein jour dans le métro de Montréal, qui va pouvoir nous en parler également. Et on a eu l'occasion de recevoir aussi avec notre collègue Benoît Dutrisac, plus tôt aujourd'hui, Kevin Grenier, qui est le président du syndicat des constables spéciaux de la STM. Parce qu'ultimement, c'est eux hein, qui se retrouvent aux prises avec ces gens-là qui doivent les gérer. Là. Eux, c'est leur travail. Puis de ce qu'il expliquait, on a remarqué là, une augmentation, par exemple, de l'agressivité puis des problèmes des gens, en général, dans les rues de Montréal. Selon lui, c'est une situation qui, après ça, est calquée dans le métro. Là. Une augmentation qui est vraiment marquée depuis la pandémie. Puis il nous explique aussi que ça vient avec toutes sortes de problèmes. Justement, cette clientèle-là qui est souvent criminalisée peut-être, mais souvent en prise avec des problèmes de toxicomanie, de santé mentale. On peut écouter un tout petit peu Kevin Grenier.
C'est sûr que c'est vraiment pas facile parce que notre réalité fait en sorte qu'on a un peu un jeu de chat et la souris avec les personnes vulnérables ou en état mental perturbé.
Ouais.
On est en train de travailler sur une formation pour intervenir auprès de ces agents, de ces personnes-là. Mais clairement, nous aussi, on subit beaucoup d'agressions. On en a régulièrement.
J'étais quand même surpris du nombre d'interventions. Il te parle de... il a parlé à Benoît de proche 50 000 interventions par année dans le métro, là, pour l'année 2023. C'est OK, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interventions. En fait, c'est comme, mettons 36 500, ça serait 100 par jour, là.
Oui.
Ça veut dire qu'il y a plus de 100, 50 000, c'est-à-dire que tu as plus que 100 interventions par jour.
Puis on se comprend, là, les constables spéciaux de la STM, il y en a, mais il n'y en a pas des milliers.
Donc, ils ne voient pas tout. Ça, c'est ce qu'ils voient. Puis là, ils sont là pour intervenir. Là, ils sont sur place.
Oui, qui sont là, qui peuvent intervenir, qui sont sur place. Puis dans tous les cas, dans certains cas plutôt, là, comme il venait de nous l'expliquer, ben, ça vient avec des dangers pour les constables spéciaux eux-mêmes. Là, on se comprend? Puis eux sont formés, sont équipés pour être capables d'intervenir dans des situations comme ça. Et même là, des gens en crise, ben, ça peut mener justement à des blessures physiques là, dans le cas de certains agents de la STM. J'ai moi-même parlé là, à micro caché, bien évidemment. Pas micro caché, mais plutôt de manière anonyme avec quelqu'un là, qui travaille là, comme constable spécial pour la STM qui me disait c'est essentiellement ça. Là. Il dit, des fois, il faut qu'on intervienne. On est deux. Il faut intervenir auprès de trois individus, puis on a peur qu'ils soient armés. On fait quoi? C'est fou, là, des fois, ce qui peut arriver dans le métro.
Oui, mais là, c'est, dans ces cas-là, je te dirais, la réponse, c'est la police, là, carrément. C'est les forces policières, mais qui sont pas arrivées instantanément, qui arrivent pas instantanément dans le métro.
Oui, pendant ce temps-là, ben, tu as des usagers qui, eux, ben, se retrouvent en sandwich dans cette situation-là, puis qui vivent vraiment là, ce qui se passe dans le métro. Bref, un événement, là, peut-être que ça prenait une médiatisation comme ça d'un cas pour qu'il y ait un mouvement ou qu'il y ait un réveil collectif concernant tout ça. Dans tous les cas, Mario, c'est malheureux que ça prenne ça aussi parce que ça fait un petit bout qu'on en entend des témoignages comme ça dans le métro.
Tout savoir en 24 minutes.
Et parlant de témoignages, dans ce qui concerne le dossier des Canadiens en République dominicaine, hein, ça avait été rapporté tout d'abord à la suite là, du décès plus tôt cette année de William Garreau, jeune homme de 25 ans qui est en voyage à Punta Cana en janvier dernier. Tombe du balcon du troisième étage après un épisode d'intoxication intense là, dans lequel il hallucine, fabule, voit des affaires et finit par tomber, là, se lancer littéralement du troisième étage et de décéder depuis ce temps-là.
Mais c'est que sa mère, en prenant la parole publiquement, je ne sais pas elle si elle avait même pu imaginer ce qu'elle a provoqué. Là. C'est-à-dire que ça en prenait une personne qui aille sur la place publique pour que plusieurs autres qui ont vécu des choses semblables, identiques ou semblables, disent « Ouais, mais là, moi aussi, mon frère, ma mère, mon soeur. » Et là, ça vient de partout, là.
Oui, ça vient de partout à un tel point qu'on a effectué des vérifications auprès d'Affaires mondiales Canada pour se rendre compte que c'est plus de 300 voyageurs qui ont demandé l'aide du consulat canadien en République dominicaine l'an dernier. Là, c'est presque 100 cas de plus en 2023 qu'en 2022. D'accord, de ce qu'on explique du côté des autorités là-bas, c'est qu'il y a beaucoup plus de voyageurs canadiens qui sont venus en République dominicaine que l'autre année d'avant. Donc, ça pourrait expliquer cette augmentation-là. Mais quand même, on a de plus en plus de gens qui ont besoin d'avoir des recours comme ça et qui viennent expliquer aussi, des fois, de manière rétroactive, là, des témoignages, des événements qui leur sont arrivés. Là. Quand on parle comme ça, ben, de quelqu'un qui se lance d'un étage puis qui finit par en décéder.
Mais ça, c'est une des affaires bizarres. C'est que dans les... Je sais pas, là, dans les traits communs des événements... Il y a beaucoup de gens avec qui ça revient, cette histoire de vouler, même de monsieur beaucoup plus âgé, là, que tu sais, le jeune Garreau avait 25 ans, mais monsieur, je pense, dans la cinquantaine, la soixantaine, même affaire. Il y avait l'obsession de se tirer en bas du balcon. Je pense que c'est son frère qui disait, fallait que je le retienne. Il y avait juste... Mais c'est comme une espèce de délire, puis des gens qui semblent tout à coup complètement intoxiqués et qui ont cette idée de plonger, là...
Ouais, puis dans certains cas, on se comprend, il y avait beaucoup d'alcool d'impliqué, puis là... À prime abord, il y a des gens dans l'entourage qui se disaient « Ah ben, c'est vraiment parce qu'il avait pris un coup, mais qui se rendent compte par la suite en
que
disant... »
Que ça se peut pas, mais c'est parce que prendre un coup, c'est rare là, que tu vas basculer d'une minute à l'autre. Tu sais, à la limite, tu vas tomber endormi, tu vas venir niaiseux, le corps mou, perdu, la démarche croche.
T'as pas le goût de te lancer en bas d'un troisième étage.
Non, puis surtout d'un délire, c'est rare que d'une minute à l'autre, là, tu vas partir complètement, là, que tu sais plus quitter, qu'est-ce qui se passe, que tu vois des menaces qui n'existent pas. Tu sais, l'alcool n'a pas cette espèce, c'est rare, en tout cas, cette espèce d'effet hallucinogène instantané là, de te mettre à imaginer des choses qui n'existent pas. Là. Ça, c'est de l'intoxication.
Oui, c'est une autre forme d'intoxication. Puis surtout, tu parlais d'un cas de quelqu'un de plus vieux, mais là, ça fait 2 ans, par exemple, là, qu'il y a une dame, là, une veuve.
Ça, c'est les nouveaux cas d'aujourd'hui. Là,
ben
c'est
oui,
ça.
Qui vient rapporter puis qui vient s'ajouter. Là, Betty Osorio, là, qui était l'épouse de Patricio Retamal, un homme qui est malheureusement décédé, brossardois de 56 ans, qui était exactement, Mario, dans le même hôtel où William Garreau est décédé. Il s'est lancé d'un balcon. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ben, ils sont allés en excursion en catamaran, sont allés souper, ils ont consommé un verre de rhum. On parle d'un verre de rhum. Là. Vont se coucher. Plein milieu de la nuit, elle dit que son mari devient hystérique, se met à voir des choses qui sont pas réelles, sort de la chambre en hurlant, saute dans la piscine du balcon et décède. À peu près, là, on est au même endroit. On a un cas presque similaire dans lequel, ben, crise totale, se lance en bas du balcon, décède. Et une fois de plus, mais il y a eu un autre, disons, là, schéma qui se répète, ben, elle était plus capable de voir le corps de son mari une fois qu'il était mort. On lui a dit non, on ne fait plus le voir, on enquête, c'est fini. Pas pu le voir, puis hop, on le ramène à la maison. Là. Comme c'est arrivé, encore une fois, là, dans un cas où c'était excessivement rapide pour nettoyer la scène qui est arrivée justement à William Garreau. Donc, des cas qui se multiplient, Mario.
Mais c'est parce qu'il y a un point où c'est Affaires mondiales Canada, puis c'est il y a une responsabilité de mettre de la pression sur les autorités là-bas pour dire, là, nous, au Canada, on a des plaintes de famille, ça n'a pas de bon sens ce qui se passe. Vous allez repasser, vous allez vérifier ce qui se passe dans votre établissement, vous allez faire une enquête sur les décès. C'est pas... ça commence à être inquiétant. Il y a vraiment des traits communs. Ça tourne autour de Punta Cana, ça tourne autour même d'un hôtel et de quelques hôtels. Est-ce que ça peut être un hasard? T'sais, ça peut toujours être un hasard ou ça peut toujours Mais tu sais, ça peut être aussi, est-ce qu'il y a un individu qui met quelque chose dans certains drinks? Est-ce qu'il y a un produit qu'il utilise qui est de mauvaise qualité, qui a un effet sur certains clients? Mais je sais pas comment on peut ne pas enquêter une affaire comme quand t'as autant de cas qui se répètent, là. Je sais pas comment. Puis personne. Les familles individuellement peuvent pas mettre de la pression sur le gouvernement dominicain ou sur la ville de Punta Cana ou sur la police nationale de la République dominicaine. Seul l'Affaires mondiales Canada, seul le ministère des Affaires étrangères du Canada peut le faire.
Ouais. Puis ils ont tout un levier, Mario, là. En 2023, c'est 893 000 Canadiens qui seraient allés visiter la République dominicaine.
Imagine l'argent, là.
C'est de l'argent pas mal, c'est du tourisme pas mal. Je suis certain que les autorités là-bas n'ont pas envie de perdre ça.
Actualité.
On revient au Québec alors que le fameux tableau de bord qui a été promis par le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, est en train d'être dévoilé. Dès hier, M. Drainville montrait justement les principaux indicateurs, 9 indicateurs clés comme il les appelle, qui vont être capables de... regarder, surveiller, examiner et comparer le système de l'éducation du Québec. Le problème, c'est que aussitôt dévoilé, aussitôt il y a une levée de bouclier, Mario.
C'était prévisible. La comparaison, c'est très mal vu dans le secteur public, très mal vu dans l'espèce de vision un petit peu socialisante qui s'est installée dans notre secteur public, dans le monde syndical.
Oui, parce que le problème, c'est pas tant d'avoir un tableau de bord puis d'être capable d'avoir des données. C'est de les rendre publiques. C'est vraiment ça qui vient scier aux oreilles, entre autres, mais tu le disais, des syndicats d'enseignement, de la Fédération québécoise, des directions d'établissement aussi, qui dit, si on fait ça, les gens vont se mettre à comparer constamment quelle école a l'air meilleure que l'autre, vont se mettre constamment à magasiner des écoles qui sont peut-être même encore plus loin que chez eux, vont compliquer le transport, vont défavoriser des écoles qui sont déjà défavorisées, par exemple, parce qu'ils ont des élèves à difficulté ou des élèves qui performent moins bien. Mais ça va pas inciter des bons élèves ou des élèves qui ont des bonnes performances à aller dans ces écoles-là par la suite. Il y a quand même un fond là-dedans qui peut être vrai, Mario.
Je comprends les craintes, mais tu sais, moi, j'ai toujours été en faveur complètement de la transparence, de la concurrence. Déjà que, tu sais, dans le marché privé, c'est que tout est t'as une vraie concurrence. Mais dans les systèmes publics, là, tu crées des monopoles. T'sais, comment tu fais pour comparer qui fait bien son travail, qui le fait moins bien? On va me dire, ouais, mon papa avec la même matière première. Tu peux avoir une école qui part avec des enfants dans des quartiers, c'est plus difficile, mais on le sait. Mais c'est pas vrai, il se fait. Je veux dire, même dans des quartiers comparables, on le voit déjà avec le palmarès qui se fait là, tu sais, par le journal. On le voit dans des quartiers comparables, dans des quartiers défavorisés, t'as des écoles qui réussissent très bien, puis d'autres qui réussissent beaucoup moins bien. Parce qu'à un moment donné, tu peux faire mieux. Tu peux faire mieux, tu peux te dépasser. Alors là, en plus, on aura. Bon, après ça, je dis tout ça. Je vais demander à voir les critères, le comment, là. Comment on fait ça, comment, tu sais, le fameux, les gens faisaient des farces aujourd'hui avec la prestation de M. Legault à l'Assemblée nationale avec ses pommes, ses oranges et ses bananes.
Ça va rester, ça.
Faudra qu'on s'assure de comparer des pommes avec des pommes puis des oranges avec des oranges. Ça, c'est correct, là. Mais quand même, moi, je pense que c'est une, je réclame ça depuis des années, puis ça devrait être comme ça dans plus de domaines, puis vive la transparence et l'information publique, c'est la meilleure garantie pour les citoyens d'aller chercher de la qualité dans ces services.
Tout savoir en 24 minutes.
Déclaration choc ou pas tant, faite par la ministre des Affaires Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères, qui a réagi à l'élection russe. Mario, t'as dû suivre ça sur le bout de ta chaise toute la fin de semaine?
Oui, il a gagné finalement, M. Poutine.
Oui, hein, on s'y attendait pas. Avec
88-4.
88%, mais ça veut dire qu'il était même pas à peu près.
Mais sais-tu qu'est-ce que ça veut dire? Essentiellement, là, les élections sont arrangées en Russie depuis un certain temps. Pour moi, la nouvelle d'hier, c'est qu'il fait plus semblant, il fait plus attention. Ouais. Pendant une longue époque, on se disait, ouais, c'est bien beau là, de gagner les élections, mais là, faut
faire semblant qu'il y a eu une opposition.
Faut qu'il y ait un simulacre de démocratie, faut faire semblant. Là, ça vaut même plus la peine. On s'en fâche même plus. On s'en fâche même plus d'en donner l'illusion. Là,
ouais. 87, fait 88%.
Ouais, on fait ce qu'il y a à faire.
Ouais, on se comprend que c'est des taux qui sont... On utilise l'expression stalinien, Mario. Là, c'est peut-être bien employé dans ce cas-ci. Quand on parle de la Russie, bien évidemment, là, j'étais sarcastique en début, puis Mélanie Joly n'a pas tardé à le souligner aujourd'hui en disant que les irrégularités du processus électoral en Russie est inquiétant. On a eu quand même un ton très dur, là, Mario.
Ouais, ouais. À parler d'élections truquées, d'irrégularités, sincèrement, j'ai mieux aimé, si tu me demandes, je ne vais pas aller dire que c'est pas irrégulier ou truqué, mais j'ai mieux aimé les choix de mots de pays comme la France, les États-Unis, qui ont parlé qu'on n'avait pas les conditions d'une élection libre et démocratique, parce que tu sais, un trucage d'élection, pour moi, c'est plus là, les boîtes de vote. Tout ça. Alors qu'on n'a aucun signe en Russie que Poutine avait besoin de truquer l'élection ou de changer le décompte des votes ou de rajouter des boîtes. C'est bien plus qu'il n'y a pas d'élection libre et démocratique. Ouais. Les médias peuvent pas diffuser librement l'information. Les partis politiques peuvent pas s'organiser librement. Les vrais opposants au régime sont empoisonnés. Donc, oui, c'est une forme de trucage, mais moi, c'est les conditions de base d'une... Et d'ailleurs, c'est ce qu'ont dit la France, les États-Unis. Les conditions d'une élection libre et démocratique n'ont pas été réunies. Donc, je reprends les mots de la France qui dit « Nous prenons acte du résultat. » Donc, on prend acte du résultat, mais on reconnaît pas ça comme une élection en bonne et due forme, comme une élection dans le sens de la démocratie telle qu'on la conçoit.
C'est sûr que c'est plus facile quand même faire une campagne électorale, pas d'opposition.
Bien, c'est sûr. D'abord, il y a tout un système par lequel les partis qui ont le droit de se présenter, donc les trois candidats qui se présentaient, il y avait un libéral-démocrate, un communiste. L'autre parti, il s'appelle, mais là, tu sais, la traduction du russe en français, il l'appelle le parti Nouvelle Personne, au pluriel. Oh. Nouvelle ES, la personne ES. Et c'est la nouvelle, je sais pas en anglais, c'est comme New People, des nouvelles personnes. Je suppose les nouvelles personnes qui se présentent en politique, je ne sais pas. Mais ces trois partis-là, donc les communistes, les libéraux-démocrates, le parti de nouvelles personnes, sont approuvés par la Douma, mais donc sont approuvés par le parti de Poutine.
Oui. C'est le fun, ça. C'est
comme si moi, il y a 30 ans, quand j'ai fondé la DQ, il aurait fallu que le PQ, le Parti libéral, on approuve tout ça, nous autres.
On est-tu d'accord qu'ils se pointent plus du monde?
C'est-tu... Non. Finalement, non. Fait que les partis sont... Tu sais, tout ça est un peu loufoque parce que c'est que si tu... Il y a des choses que tu n'as pas le droit de remettre en question dans le régime. Pour être approuvé, tu peux être en désaccord, mettons, avec deux, trois... Comme si la CAQ approuvait les autres partis, mais bon, tu peux être en désaccord avec le dernier budget ou tu peux être en désaccord avec la nouvelle loi sur le ministère des Transports.
Mais pas trop.
Mais pas la loi sur la laïcité, puis pas la loi 80. Il y a des lois que ça, c'est non. Si tu veux avoir la définition d'un parti politique, il y a des choses, il faut que tu sois d'accord.
Ouais, c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle, en tout cas, Mario, mais c'est...
Mais c'est ça qui fait dire qu'on n'est pas dans un système d'élection libre et démocratique. D'abord, c'est certain qu'à la base, quand les candidats adverses ne sont pas en sécurité, là, qui sont empoisonnés au polonium, tu viens de régler déjà le cas, c'est qui va se présenter quand tu sais que tous les derniers opposants sont morts, là. Mais ben, c'était déjà... En plus, à partir du moment où les médias ne peuvent pas faire une presse libre, une couverture libre des élections, ben là, ça vaut quoi? Que les partis politiques peuvent pas librement s'exprimer, ramasser de l'argent, faire leur campagne. C'est ça. Ça donne 88%.
Félicitations.
Tout savoir en 24 minutes.
On a eu une nouvelle poursuite qui s'est intentée, recours collectif là, qui se met en branle en ce moment, puis qui est menée par une célébrité québécoise bien connue, peut-être même bien connue à cette table, Marie-Claude Barrette, Mario.
Oui, déposé ces jours-ci contre Meta.
Oui, contre Meta, puis pas pour le blocage de nouvelles, pas pour toutes sortes d'autres choses qui pourraient se passer sur le réseau social, non. C'est pour la publicité trompeuse, qui est approuvée par Meta elle-même, puis qui peut continuer de perdurer.
Où des bandits utilisent l'image de personnalité publique. Et là, c'est elle qui intente ça. Moi, je pense qu'il y a d'autres qui vont se joindre. Je veux dire, il y a quand même plusieurs personnalités au Québec pour vendre. Dans le cas de Marie-Claude, elle c'était de faire faire à des gens des faux placements. On leur demandait d'investir de l'argent dans un système de crypto-monnaie qui était complètement faux, mais qui donnait supposément des rendements mirobolants. Il y en a d'autres, c'est pour vendre des pilules pour maigrir, d'autres, c'est pour vendre... Mais dans tous les cas, c'est qu'on utilise une personne qui n'est pas du tout concernée par cette histoire-là, mais on utilise son image pour vendre le produit ou pour attirer le public en disant, là, en inventant un propos, la personne aurait soi-disant dit que les pilules font maigrir, ou dans ce cas-ci, Marie-Claude aurait dit que c'était une affaire là, pour faire de l'argent vite.
Oui. Fait qu'elle n'a pas gagné plein d'argent avec la crypto-monnaie.
Non, elle n'a pas gagné plein d'argent. Elle n'a jamais participé à ça. C'est faux de A à Z.
Ouais.
Mais quand même, l'idée, c'est que Meta... Parce qu'elle, elle a averti Meta plusieurs fois, là, ça, là. Parce qu'elle, des gens la contactaient. Elle disait, c'est-tu vrai? Moi? Parce qu'il y a des gens là, qui allaient sauver in extremis. Ils allaient investir. Ils allaient investir là-dedans. Puis elle leur disait, non. Mais il y en a beaucoup d'autres qui ont investi. Là, sans, ils ont dit, ah ben là, Marie-Claude embarque là-dedans. Des gens qui ont perdu des centaines de dollars. Là.
L'appel à l'autorité. Il y a beaucoup de gens qui vont voir quelqu'un qui respecte, qui adule, dans certains cas, faire quelque chose ou promouvoir quelque chose. Puis qui font dire, ah ben si on a justement
si
quelqu'un.
Si un tel fait ça ou est pour ça ou utilise ce produit-là, c'est sûrement bon.
Voilà. Puis ben là, oui. Tu as parlé de l'image, Mario, mais c'est un flux. Léo, qui est en train de se diversifier, bien évidemment, avec l'utilisation aussi de l'intelligence artificielle.
Alors, tu peux faire parler. Dans le cas de Nathalie Simard, ce qui allait encore plus loin,
qu'elle,
on la faisait parler, c'est sa
voix. Absolument. Et j'avais reçu, parce que j'ai fait dans mes épisodes de balado ici à Ce n'est qu'une théorie, ici à Cube, mais j'ai fait des épisodes sur l'intelligence artificielle, les dangers qui nous guettent autour de tout ça. Puis j'ai eu l'occasion de parler avec la chanteuse Nathalie Simard, justement, qui m'avait expliqué, Mario, puis ça vaut la peine quand même de le réécouter pour voir un peu c'est quoi l'esprit, justement, là, de cette poursuite qui s'intente en ce moment. Expliquer, mais à quel point, maintenant, c'était rendu loin, cette propagande-là. Bon, l'extrait semble pas partir pour l'instant, mais en gros, Nathalie Simard qui m'expliquait ben à quel point elle était surprise parce qu'elle avait déjà vu des annonces comme ça qui faisaient dans son cas-ci la promotion de pilules amaigrissantes, mais qui soudainement ben elle se retrouvait elle ben avec sa voix là qui parlait sur une vidéo.
Puis c'est sûr que si t'es hyper attentif et habitué à l'intelligence artificielle, tu reconnais là, que le propos est un peu saccadé, même si j'exagère, à peine moins que ça. Mais tu reconnais la voix de Nathalie Simard, mais tu reconnais que c'est un montage saccadé là, d'utilisation de sa voix et des mots. Mais si tu regardes ça vite, là, je sais pas, t'es sur une vidéo, t'es sur Facebook, tu te méfies pas.
Ça sonne comme elle.
Ça sonne, mais c'est elle, c'est sa voix. T'entends le timbre de sa voix très, très, très clairement.
Oui, puis là, ben si c'est saccadé pour l'instant, Mario...
On a l'extrait.
On va pouvoir l'écouter, oui.
Et il y en a un autre qui recommence. Alors, c'est une perte de temps immense.
En tout cas, ben, elle nous expliquait plus loin, justement, là, exactement là, à quel point ben, ça avait réussi à tromper des gens. Puis elle-même, on se comprend, hein, d'entendre un deepfake avec sa propre voix, ben, c'est choquant. Hein? Tu t'entends dire des choses que tu n'as jamais dites.
Dans l'extrait qu'on entendait, on l'entendait parler d'une perte de temps. Pour tout le monde qui l'a vécu, là, puis Marie-Claude en est une, puis d'autres, c'est... fou, là, parce que le malaise que t'as, tu te rends compte que des gens qui sont tes admirateurs, des gens qui te suivent...
Se font crosser.
Se font voler.
Par toi.
Avec ton nom.
Mais par toi, fait, mais pas par toi.
Mais là, mettons, des fois, là, c'était des 100, des 10, 20, 30, 50 messages par jour de gens qui... Il y en a qui demandent si tu verrais, c'est pas vrai. Il y en a qui se plaignent après coup. Je pense que je me suis fait avoir, c'est de ta faute. Ben, c'est pas de ma faute, ils ont utilisé mon nom. Mais là, après ça, tu sens le besoin de répondre à tous ces gens-là. Fait que tu passes un temps débile à te sentir coupable, à essayer d'aider les gens, à essayer de les empêcher de gaffer ou de mettre leur numéro de carte de crédit ou de donner de l'argent. Mais pour quelque chose qui ne concerne pas du tout, là, tu vois, des vendis, probablement même à l'extérieur du Québec, peut-être à l'extérieur du Québec, parce que souvent on nous dit que c'est fait à partir d'autres pays pour ne pas être attrapé sur le web. Et là, après ça, si c'est des gens qui font ça, je ne sais pas, mais ils sont en Roumanie. Puis là, ils font ça au Québec pour voler des Québécois. Mais quelle est la responsabilité de Facebook? C'est ça l'affaire. Quelle est la responsabilité de Facebook de rediffuser des faussetés, puis de les partager, puis de les partager, puis de les partager? Puis quelle est la responsabilité de Facebook? Bon, tu peux dire le jour 1, Facebook n'est pas conscient. Mais à partir du moment
où tu as signalé tout ça,
où la principale personne intéressée, c'est Marie-Claude Barrette dit ça, c'est faux. C'est pas moi, c'est un montage faux. Et que là, le Facebook continue à le laisser se diffuser, là, tu te dis, ben là, non, là, c'est comme... c'est quasiment, tu sais, comme si le maire de la ville se faisait dire tel colporteur, c'est pas un colporteur, c'est un voleur. Puis qu'on lui dit, ah, bon, il donne son permis de colporteur. Non, mais c'est vraiment ça, on lui signe son permis de colporteur, son permis de porte-à-porte quand même. On dit, non, mais il vend, c'est un voleur. Ben, c'est pas... Tu sais, tu le sais, là, on te le dit, c'est un voleur, il a volé hier, il a volé avant hier, il a volé la semaine d'avant. Puis la ville dit, ah non, son permis de porte-à-porte, certainement, on y signe. Ça veut dire, c'est quoi la responsabilité dans un cas comme ça de la ville? Bien là, dans ce cas-ci, Facebook et le média diffusent une information qu'ils savent être frauduleuse et visée à arracher de l'argent à des honnêtes gens.
Le monde.
En terminant, on s'y attendait depuis un bon moment, là, depuis que Donald Trump, l'ex-président américain, a été condamné à payer 454 millions de dollars d'amende pour des fraudes financières au sein de son entreprise. On s'y attendait qu'il ne soit pas capable de tout payer d'un coup.
Voyons, Alexandre.
Il est tellement riche.
Un milliardaire?
Mais peut-être pas. Hein? C'est ce que beaucoup de journalistes, entre autres aux États-Unis, ont abordé comme sujet dans les dernières semaines et qui semble se concrétiser à ce moment-ci, alors que les avocats de M. Trump ont fait savoir aujourd'hui qu'il était impossible pour lui de payer le 454 millions de dollars, ce qu'il est censé être capable d'aller offrir d'ici quand même quelques semaines, le 25 mars. Sinon, ben, il pourrait se faire saisir certains de ses biens immobiliers en garantie, en collateral, comme on dit en anglais. Donc, ça pourrait voir certains bâtiments historiques comme la Trump Tower être saisis. Ils veulent porter tout ça en appel en disant que c'est déraisonnable, que personne ne pourrait payer un tel montant. Pourtant, comme tu le dis, M. Trump est censé être l'homme à succès, le milliardaire par excellence. Disons qu'on commence à avoir des craques dans son armure.
Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.